Sport Matin Dimanche, saison 2025-2026, l'épisode 15, dernière émission de cette année 2025, votre demi-heure, toujours un peu plus d'actualité sportive sur Colline, avec des invités, des réactions, bien entendu des résultats. On est avec Dominique Cadu pour ce rendez-vous emblématique du sport sur Colline. En football, retour sur le match en retard, Périgny-Bressuy remporté 2-1 par le FCB. Damien Charron nous attend au téléphone dans quelques instants. Match en retard pour Chanteloup-Cours-les-Chapelles en Régional 3 aussi, avec un match arrêté pour cause de brouillard. Zoom sur le club départemental du FC Chiché qui évolue en départemental 3 avec son président Olivier Germain. En rugby, Lola Martin, Bressuirez qui évolue au stade Rochelet sera également avec nous. En basket, nous prendrons des nouvelles de Maëlys Kalou, la Monéonaise du BC Choret, victime d'une grave blessure, et une invitée exceptionnelle pour terminer cette dernière émission de l'année, Marie Mamère, présentatrice de Tout le Sport sur France Télévisions. La météo, une fois le brouillard dissipé, du soleil ce dimanche, 6 degrés au lever du jour, une dizaine de degrés au meilleur de cette journée. Le dernier Sport Matin Dimanche de l'année 2025, c'est parti.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Bonjour Dominique.
Bonjour David, bonjour à nos nombreux et fidèles auditeurs, dont Paulette Delachintre et Dominique Chagnot, l'ex-ancien gardien de but, l'excellent gardien de but qui fut à Saint-Maurice-la-Fougereuse. Et c'est pour cette dernière émission, une pensée aussi pour deux serviteurs du football qui nous ont récemment quittés, Claude Millet et Roland Daguisé.
Les résultats avec la Ligue 1 dans cette page football. On vous rappelle que vendredi, Nantes s'était lourdement incliné à Angers 4-1. Ce samedi, sachez que Rennes a battu Brest 3-1. La victoire du Paris Saint-Germain 3-2 à Metz, celle de Toulouse 3-0 au Paris FC. 5 rencontres aujourd'hui: Lyon, Le Havre, Auxerre, Lille, Lens reçoit Nice, Strasbourg opposé à Lorient, Marseille reçoit Monaco. La Ligue 2 avec les résultats de vendredi, la victoire du Mans 2-1 à Annecy, 2-1 aussi Dunkerque qui s'impose à Laval, Nancy qui bat Clermont 1-0, Amiens s'impose 2-1 à Pau, et décidément c'est le score en Ligue 2 ce week-end puisque Rodez bat Guingamp 2-1. Ça c'était vendredi. Ce samedi, match nul entre Grenoble et Montpellier, 1-0, 0-0 entre le Star et Reims, 2-2 entre Saint-Etienne et le SC Bastia. Il reste une rencontre à jouer, ce sera ce lundi soir avec Boulogne qui reçoit 3, Dominique.
Oui, en national, La Roche-Vendée a battu le Stade Poitevin 4-0, Bayonne a battu Avranches 2-1, Choret et Angoulême-Charente 0-0, Granville a perdu contre les Herbiers 2-1, ces quatre matchs se jouaient vendredi soir. Hier soir, Dinan-Leon a battu Châteaubriant 2-1, Locminé-Saint-Colomban, qui était lanterne rouge, a battu Saint-Malo 1-0. La réserve de Lorient et Saumur ont fait match nul 2-2. Encore un but pour Saumur de l'ex-Bressuret Epagna. Quant à Montlouis, devant une foule record, match nul face à Bordeaux 2-2. En National 3, hier soir, Chauvigny-les-Sables 2-2. La Châtaigneraie-Châtellerault 1-1. Le Poiré-Survie a battu Fontenay-Vendée 4-3. Les Fontenaisiens avaient peut-être déjà la tête à la Coupe de France. Fontenay affrontera le PSG à la Beaujoire en Coupe de France. Et notez que 26 000 billets ont déjà été vendus en un après-midi. Autre match de championnat hier soir, UF Touraine a battu la réserve du SCO d'Angers 2-0. Des Tourangeaux qui ont appris cette semaine l'arrivée au capital du club d'un certain Zinedine Zidane, qui a déjà offert 10 000 euros. Autre résultat, Vertou-Chaland 1-1. Ce dimanche, les réserves de Châteauroux et de Nantes s'affrontent. Enfin, dernier match entre Panazol et Saint-Philibert. En Coupe Nouvelle-Aquitaine, quatrième tour, le Talus a été battu par Ozon 1-0. La réserve de Choret a difficilement battu le SC Toircet 3-2. La Rochelle a battu le Pays Mélois 2-0. Le Pays Saint-Mexantais a réalisé une nouvelle performance face à Mignaloux-Beauvoir, victoire 3-2. Et Chéré-Saint-Gelais s'est largement imposé à Smart-Viteuil 6-2. Niort-Saint-Florent a battu Ouaré-d'Angers 3-0. Et Val a réalisé un exploit en sortant Montcoutant 0-0 à la fin du temps réglementaire, 4-2. Ce dimanche, Aubin-Rortais affronte Ligugé. Avenir 79 face à la réserve du Stade Poitevin. Chasseneuil-Saint-Georges contre Beaulieu-Breuil. Inter-Bocage face à Vauneuil-Soubiard. Pézé-le-Sec face à Louzy. Et Saint-Cerbouille face à Niort-Saint-Liguer. Tous ces matchs ont lieu à 14h30.
Oh. En régional, une nouvelle Aquitaine, il y avait un match en retard entre Périgny et Bressuire. Ce samedi, victoire des Bressurés, Dominique Debuzard, grâce à deux buts de junior. Pour nous parler de cette rencontre, Dominique, Damien Charron, on nous fait l'amitié d'être avec nous en direct.
Damien, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez gagné hier soir votre match en retard à Périgny 2-1. Quelle analyse faites-vous de ce match?
C'est une grosse satisfaction. On avait vraiment pour objectif de profiter de ce match en retard pour essayer de retrouver cette place de dauphin. Donc c'était pas une mission simple d'avance, bien évidemment, parce qu'on savait que Périgny était sur une belle série, hormis son faux pas à Neuilly-Aubier. Donc on savait que c'était une équipe de qualité, avec très très solide. Donc on avait à cœur de bien faire. Et on a réalisé cet objectif et on va passer les fêtes à une place qui, à mon avis, correspond à l'ensemble de notre début de championnat.
Le FCB donc termine cette année en étant deuxième du championnat, à 13 points de retard derrière l'intouchable leader Trélissac. Est-ce que vous avez des regrets ou non sur cette phase aller?
Non, pas de gros regrets. Je pense que nos victoires sont logiques. Je pense que sur nos matchs, par contre, sur nos matchs nuls et nos défaites, à mon avis, je pense qu'on pourrait en transformer un en victoire, parce qu'il nous manque peut-être une victoire sur l'ensemble de notre de cette première partie de saison. Mais peu de regrets. L'objectif, c'était aussi de. Enfin, c'est quand un nouveau cycle débute, c'est que le groupe essaye de bien fonctionner ensemble, qu'apprennent à se connaître, fonctionner ensemble et puis qu'on puisse progresser, travailler. Donc c'est déjà aussi important, parce que c'est quelque chose qui a pu se mettre en place. Donc après, en fonction de ce qui peut se passer, les résultats sont relativement satisfaisants, et donc il n'y a pas de regret à avoir sur cette phase-là, hormis le fait que Trélissac soit, comme vous l'avez dit, quasiment intouchable. Donc voilà.
L'entraîneur que vous êtes, est-ce qu'il pense déjà à l'année 2026? Alors, est-ce qu'il y aura un peu de repos, même pour vous? Et puis, quelle sera votre ambition pour la future année?
Oui, il y aura forcément un petit peu de repos. Hein. Les joueurs sont sur le pont depuis 15 juillet, donc il faut aussi profiter des moments qui arrivent et qui est du repos. Donc on repartira tout début janvier tous ensemble, et puis on a déjà un mois de janvier qui nous attend avec un match amical le 10, et puis tout de suite
contre qui le 10
contre la réserve de la Roche-sur-Yon, et puis ensuite on rentrera en coupe du coup Nouvelle-Aquitaine pour réattaquer ensuite le championnat et accueillir Jarnac. Donc ça va être rythmé très rapidement. Donc voilà, et l'objectif ou la continuité de cette deuxième partie de saison, c'est d'essayer de rester sur ce haut de tableau, en essayant de voir aussi les péripéties qui peuvent se produire au cours du championnat. On sait que ça va être on sait à chaque fois que sur les mois de janvier, c'est presque un deuxième championnat qui redémarre, avec parfois des effectifs qui s'enrichissent un petit peu, ou certains clubs qui perdent certains joueurs, des objectifs qui peuvent peut-être devenir différents pour certains clubs aussi, des clubs qui souhaitent se maintenir et qui sont tout de suite difficiles à manœuvrer. Enfin voilà, c'est plein de circonstances qui font que c'est une sorte de championnat qui redémarre. Donc il faudra qu'on reste, nous, par contre, dans notre ligne conductrice, et puis qu'on essaie de nouveau chercher à progresser malgré tout.
Merci à vous, Damien. Et puis, ce n'est peut-être pas à vous de le dire, mais je sais que vous faites l'unanimité au FC Bressuire, un club que vous avez découvert. On vous souhaite une deuxième partie de championnat aussi correcte que la première. Merci à vous.
C'est très gentil, merci. Et puis, bonne fête de fin d'année à l'ensemble des auditeurs de Colline.
Merci beaucoup, Damien. Au revoir.
Merci.
Merci, merci Damien Charron, l'entraîneur, et bonne fête de fin d'année à vous aussi et à tout le club de Bressuire qui, je rappelle, donc s'est imposé à Périgny dans cette régionale en Nouvelle-Aquitaine, 2-1. Le leader Trélissac a encore frappé 3-0, victoire à Limoges, 12e victoire en 12 matchs du leader. Et puis Rochefort et Thouars se sont quittés sur un nul, 2-2. Début de Thouarsais inscrit par Réo Egning. Le gardien Paulin Avril a préservé le match nul. Régional 1, Pays de la Loire. On regarde ce qui se passe chez nos voisins avec la victoire de Saint-Philbert aux Herbiers, 3-2. Et puis la Baule qui a dominé Pouzauges, 1-0. Sachez qu'aujourd'hui, le Poiré accueille Château-Gontier en régional 2, poule 1. Un match en retard avec Trois-Vallées 86 qui bat Beaumont, 3-1. La régionale 2 féminine, ça joue cet après-midi pour les Bressuraises face à la Baie. En régional 3, dans la poule B, il y avait ce match en retard entre Chanteloup, Courlet, Chapelle, Nintré. Match arrêté à la 14e minute pour cause de brouillard trop dense, alors que Nintré menait 1-0 depuis la 20e seconde de jeu seulement. Écoutez la réélection d'Eduardo Oliveira, l'entraîneur du FC 3C. Il est au micro de Laurent Guichetot.
Le brouillard, c'est vrai que c'est gênant parce qu'on ne voyait plus les extrémités. Après, c'est l'arbitre qui a pris la décision. Bon, nous, on n'est pour rien. Même si on perdait 1-0, après, voilà, c'est pas nous qui décidons. Hein. C'est l'arbitre et la météo aussi. On ne peut pas gérer, la météo.
Un but très rapide ce soir.
Oui, un manque de communication devant notre défense. Voilà, il n'y en a pas un qui a dit un mot. Et pourtant, on n'est pas muet, mais voilà, ça paye cash.
Anthony Rodriguez, entraîneur de Nintré, estime, lui, que l'on aurait pu terminer cette rencontre.
Le match, il aurait dû continuer à se jouer et il aurait dû se jouer. Alors peut-être avec une petite coupure de 10 minutes pour... Après, tout le monde a vu comme quoi que le brouillard s'est levé. J'ai vu des signes qui a fait que l'équipe adverse ne voulait pas continuer à jouer. Voilà, je suis un peu surpris parce que avec l'expérience que j'ai fait des matchs avec du brouillard plus épais que ça. Et malheureusement et heureusement, on a joué parce qu'on est des footballeurs, on s'adapte avec toutes sortes de météo. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra ici pour gagner.
Match arrêté donc entre Chanteloup, Courlet, Chapelle et Nintré, alors que Nintré menait 1-0. Match arrêté à la 14e minute en raison de brouillard. Il y a de la coupe aussi ce week-end, coupe des Deux-Sèvres, 4e tour, avec hier la qualif pour Amaillou face à Thouars 1-0, celle du FC Boutonnais 5-0 face à Aigondigné. Match arrêté aussi entre Parthenay-Vienne et Pays Néo-Créchois, on imagine là aussi en raison du brouillard. Terve se qualifie 3-1 sur la pousse de Périgné. Et puis la qualif de Saint-Aubin-le-Cloud 1-0 à Val-de-Boutonne. Les autres rencontre cet après-midi. On fera le point ce soir, évidemment, dans Sport Dimanche Dernier à 18h. La Coupe Saboureau, 3e tour, avec le SCAL MC qui se qualifie 2-0 à Gatti Foot. À qualification de Limalonge face à Pampro, 6-3. Bruy-Bernard au tir au but face à Thouars. Il y avait 2-2, 6 tirs au but à 5 en faveur donc du Bruy-Bernard. Et puis, qualif au tir au but aussi pour Niort-Souchet face à Cherveux. En départemental 2, pour le Sud, il y a un match en retard cet après-midi entre FC Otis et Échiré Saint-Gelais, duel de réserve. On termine cette page foot, Dominique, comme on aime à le faire, en mettant en lumière un petit club local.
Oui, c'est Olivier Germain, le coprésident du FC Chiché, qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Germain, vous êtes le président du football club de Chiché qui compte 130 licenciés. Ces licenciés sont répartis dans les trois équipes seniors et dans toutes les catégories de jeunes sauf les U11. L'équipe Fagnon évolue en 3e division départementale et est actuellement 8e avec un match de retard. Comment se porte votre club aujourd'hui ?
Alors, le club se porte plutôt bien. Donc, comme vous le précisiez, on a toutes les équipes dans toutes les catégories. En jeunes, on est tout seul, donc c'est plutôt bien. Voilà, c'était une volonté du club. Et puis, partie senior, je dirais que l'objectif de début de saison n'est pas atteint, mais on est dans le ventre mou, donc il n'y a rien de catastrophique. On est encore dans les coupes départementales et on compte bien encore faire une saison honorable dans le reste du championnat.
Voilà. Quelles sont les ambitions cette saison du club qui est entraîné par Hugo Duarte? Duarte, c'est un nom qui parle à Chiché.
Ouais, c'est la... Ça fait déjà longtemps que le nom de Duarte est affiché pour le coaching. Il y a eu le papa, il y a eu le frère de Laurent, pardon. Et là, l'objectif du club, c'était plutôt de jouer les premiers rôles de Détroit dans leur championnat. Bon, là, on n'y est pas, c'est clair, on n'a pas les objectifs. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il nous reste la coupe et on compte bien faire fin de saison honorable et de et d'être présent dans les coupes.
Alors, voilà. Puisque vous parlez de la coupe, cet après-midi, vous jouez en Coupe des Deux-Sèvres à Saint-Martin-les-Mels. Est-ce que les coupes, vous venez de le dire, c'est vraiment un objectif pour votre club?
Oui, faut, clairement, parce qu'en fait, on a toujours fait bonne figure dans les coupes, on a des supporters qui sont plutôt présents, et il n'y a pas à dire, une coupe, quand on va loin, ça laisse des bons moments. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Voilà.
Olivier, vous avez 55 ans, vous êtes un ancien joueur de l'équipe première, vous étiez libéro, vous avez été président de ce club de 2004 à 2015. Pourquoi avoir accepté de redevenir, alors vous êtes coprésident, mais depuis 2022, pourquoi ce retour?
Alors le retour, c'est parce que j'ai jamais trop quitté le club, hein, j'ai toujours poursuivi, mes enfants jouent, et puis le bureau, il y a 3 ans, est venu me solliciter. C'est un bureau qui est dynamique et qui est jeune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est bien, parce que il y a de la dynamique et ils souhaitaient avoir un peu l'expérience, enfin des gens qui rentrent avec un peu plus d'expérience. Donc on est rentré à, on était trois plutôt anciens, dont moi qui suis passé président à cette occasion. Voilà.
Donc ce soir, vous nous annoncez une bonne nouvelle? Victoire à Saint-Martin-des-Mels?
Ouais, on y va pour ça. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on part. Les supporters ont organisé un petit repas avec. On part avec les joueurs un petit peu avant. Les supporters nous suivent aussi et mangent sur place là-bas. Donc, c'est une belle journée qui s'annonce. J'espère qu'à la fin de la journée, on aura un bon résultat. Et voilà, pour pouvoir continuer l'aventure.
Vous nous tenez au courant, Colin sera est toujours à côté des petits clubs départementaux. Bien à vous.
Bien sûr, on vous tient au courant. Et merci. Hein,
bon match.
Ouais, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Dominique, pour ouvrir donc cette page basket, nous avons une invitée.
Maëlys Kalou, bonjour.
Bonjour.
Maëlys, vous avez 23 ans, vous êtes moléonnaise et basketteuse. Vous avez débuté à Nord Bocage Basket Club avant d'intégrer le pôle espoir de Poitiers, puis le réveil Bressuret. Depuis 4 saisons, vous êtes joueuse en poste 2, meneuse et arrière à Chauray, qui évolue cette saison en National 1 féminine. Comment allez-vous personnellement après ce terrible accident du samedi 8 novembre où en tout début de match face à Dijon, vous avez été victime d'une rupture totale du tendon d'Achille? Racontez-nous comment cela s'est passé.
Ça va, merci. Effectivement, le 8 novembre, en tout début de match, je me suis rompu le tendon d'Achille dès le début. Donc, voilà. Et puis après, tout le processus. Donc, je me suis fait opérer... le vendredi 14 novembre à la clinique du sport de Bordeaux à Mérignac. Et puis depuis, tout va bien. On va dire que je prends mon mal en patience. C'est jamais facile hein, de traverser une blessure comme celle-ci. Je garde le moral et puis surtout, je suis concentrée sur la récupération. Physiquement, j'ai jamais eu trop mal, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis surtout, je suis bien entourée, donc on va dire que ça aide.
Alors, voilà. C'était la première action. Le coup d'envoi, au coup d'envoi. Alors, comment ça se passe? Vous avez...
Ça, en fait, l'intérieur, c'est l'entre-deux. M'envoie la balle de mon côté et puis j'ai voulu récupérer le ballon en sautant. Et en fait, en sautant, j'ai l'impression que quelqu'un me donne un coup dans le talon. Alors qu'en fait, je me fais la rupture du tendon d'Achille toute seule. En fait, j'ai l'impression que ma chaussure est cassée et que mon talon fait 30 cm d'épaisseur. Donc je fais quand même 2 actions, une en défense, une en attaque, et je sors et je me rends compte en fait que mon mollet est remonté et là j'ai tout de suite compris que le tendon était touché.
Alors c'est la grosse poisse en ce moment, donc votre blessure très sérieuse, et puis cette équipe de Chauray qui est promue, qui a perdu ses 9 matchs de championnat.
Ouais, c'est saison compliquée. On savait que ça allait être un vrai défi, un vrai challenge. L'objectif, c'est au mois de janvier décrocher une première victoire contre le Centre fédéral à Paris. Déjà retrouver aussi de la confiance et puis un objectif maintien à la fin de la saison.
Alors le président Frédéric Duflot, qui est un habitué de la radio Colline et qui nous suit, parle de 4 victoires possibles. Est-ce que vous y croyez?
Oui, j'y crois. Déjà, là, on voit depuis un mois, il y a quand même du positif, il y a du mieux. Retrouver de la confiance, comme je le disais. Apprendre à jouer ensemble, parce que c'est vraiment... c'est une nouvelle équipe, un nouveau coach. Donc oui, j'y crois. Et puis, je pense que c'est important d'y croire pour espérer quelque chose.
À quand est prévu votre retour en compétition?
Ben, saison prochaine, l'objectif c'est de retrouver les terrains de basket au mois d'avril-mai sans opposition, et puis après reprendre la préparation avec l'équipe au mois d'août 2026.
Est-ce que après un tel coup du sort, vous êtes un petit peu en dehors du club ou vous continuez de l'accompagner et le club continue aussi de vous aider?
Ah oui, justement, je tiens à les remercier parce que que ce soit les joueuses, le coach, les dirigeants, les bénévoles, ils sont tous avec moi. Et donc, ça me tient à cœur de continuer à les suivre. Surtout que j'ai une double casquette. Je suis joueuse de la NF1, mais je suis aussi, depuis 2 ans, responsable communication et partenariat. Donc, ça me tient à cœur de continuer à les suivre.
Est-ce que vous souhaitez faire carrière dans le basket et jouer au plus haut niveau?
Non, je suis bien comme ça, à combiner être joueuse et pouvoir travailler dans le milieu du sport, à travers la communication et les partenariats. Et si je peux le faire encore quelques années, ça me va très bien comme ça.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé à Choret de plus ?
À Choret, un club familial, en combinant aussi l'aspect de compétition et puis aussi avec des joueuses d'expérience. Donc vraiment, toute une... cette combinaison-là qui fait que j'adore ce club.
Avec un peu d'avance pour les vœux, on peut vous souhaiter le meilleur pour 2026.
Oui, merci, c'est gentil.
Et votre club de Choret, ce serait quoi? Ce serait un maintien?
Oui, voilà, exactement. C'est le maintien, aller décrocher la première victoire et après essayer d'en avoir aussi 3-4, comme dit Frédéric Duflo. Et puis l'objectif, c'est le maintien pour l'année prochaine.
Plein de bonnes choses vous accompagnent, Maëlys, en cette période quand même difficile, parce que avoir été victime d'une rupture du tendon d'Achille, ce n'est pas évident à vivre. Et on tenait ce matin avec Colline à vous souhaiter le meilleur.
Je tiens à vous remercier pour cet instant-là, c'est très gentil. Je vous souhaite de bonnes fêtes et plein de bonnes choses à vous aussi.
Merci Maëlys, bon dimanche.
Merci
à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci Maëlys Kalou d'avoir été avec nous, joueuse du BC Choret, donc blessée pour le moment, et plein de bonnes choses évidemment pour la deuxième partie de la saison. Dominique, les résultats dans cette page basket?
Alors Betclic Elite cet après-midi, plutôt ce soir à 19h, Cholet va jouer à l'Asvel, un match toujours très particulier. En Elite 2, vendredi soir, La Rochelle a battu Caen 81-78 et Le Mans et Nantes a battu Poitiers 81-76. Chaland a perdu à domicile face à Rouen 79-73. En Wonder League, Charleville-Mézières a battu de peu La Roche-Vendée 72-67. Aujourd'hui, Montpellier affronte Angers. En pré-nationale féminine, ce dimanche, CA Bègles reçoit la réserve de Choret et Pouzioux-la-Vouneuil affrontera Bressuire. En régionale 2 féminine, le Pays Argentonnais reçoit la Jarry cet après-midi. En régionale 3 féminine, hier soir, le BC Cerizéen s'est imposé à Ciré 71-61 et Parthenay a perdu d'un petit point face à Neuville 51-50. Ce dimanche, Étré affronte Saint-Jean-Bouillet-Thouars. En Régional 3 masculine, Bressuire a perdu hier soir face à Marcilly 72-59. Ce dimanche, le derby entre Effre et la Chapelle-Saint-Laurent. En handball, ce samedi, Chelles-sur-Belle s'est imposé largement face à Carquefou 36-17. En National 2 masculine, Pouzauge s'est imposé à Arcachon 40-30. En National 3 féminine, Praik a été battu par la réserve d'Angoulême 37-25 et Lezay a battu Obja 25-22. En National 3 masculine ce dimanche, l'Entente Niort-Agglo affronte Segré.
Le rugby dans ce sport matin dimanche du 14 décembre, avec d'abord la Champions Cup qui se jouait ce samedi pour les Rochelais. La défaite de la Rochelle aux Stormers, 42-21. Les Rochelais ont aligné une équipe très jeune et ont tout de même marqué 3 essais lors de ce match à disputer en Afrique du Sud au sein de l'équipe maritime. Charles Kanté-Samba, le Niortais, était titulaire. Le partenaisien Huchet, qui était aussi du voyage, n'est pas rentré en jeu. Dominique, puisque l'on parle de la Rochelle, une joueuse du Stade Rochelais nous fait le plaisir d'être avec nous aussi ce matin.
Lola Martin, bonjour.
Bonjour.
Lola Martin, vous êtes bressuresse de naissance, vous êtes la fille de Thierry Martin, dont c'était l'anniversaire cette semaine, et de Véronique Gestin. Après des études au Collège Supervial de Bressuire, vous avez rejoint le lycée Jean Dauté de La Rochelle, intégrant la section sportive rugby. aujourd'hui âgé de 18 ans. Vous préparez un bachelor universitaire technologique sur 3 ans à l'UT de La Rochelle. Le rugby est votre passion. Vous jouez au Stade Rochelet en Fédéral 1. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire du rugby plutôt que le judo, le handball et la zumba que vous avez pratiqué?
Je suis tombée amoureuse de l'esprit d'équipe lors de rencontre UCEP, quand j'étais en CM2.
À Bressuire?
Oui, à Bressuire.
Alors, vous évoluez en première ligne, vous êtes pilier droit, voire en deuxième ou troisième ligne au Stade Rochelet. Votre formation est première en championnat de Fédéral 1 en ayant gagné le week-end dernier 15-8 à Pau. Quelles sont vos ambitions cette saison?
Forcément, du coup, nos ambitions d'équipe, c'est gagner tous les matchs parce qu'on fait un 6 sur 6 en ce moment. Et forcément, individuellement, c'est progresser le plus possible.
Alors, quel est le programme d'une semaine normale sportive avec le Stade Rochelet? Quel est votre programme à vous?
Le lundi soir, c'est récupération. Le mardi et le vendredi, c'est les entraînements. Et mercredi, jeudi, c'est plutôt consacré à la préparation physique et la musculation.
En plus des études, est-ce que ce n'est pas trop difficile?
J'arrive quand même bien à m'organiser parce que comme j'ai déjà été à l'internat en section sportive au lycée, j'avais aussi plein d'entraînements par semaine. Donc... C'est des bonnes semaines quand même.
Le rugby féminin est-il vraiment considéré? Qu'en pensent vos amis, garçons et filles, de votre choix pour le rugby?
Alors, oui, il est considéré de plus en plus, même si je pense qu'on pourrait encore faire mieux. Mais bon, ça commence à se développer de mieux en mieux.
Et ce choix de rugby, vous l'avez jamais regretté?
Ah non, 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 jamais. Ça m'apporte vraiment... plein de plus au quotidien. C'est pas que le sport.
C'est-à-dire, il y a des valeurs humaines que vous retrouvez au rugby?
Oui, justement, niveau l'esprit d'équipe, l'humilité, franchement, c'est des valeurs qu'on a besoin tous les jours, finalement.
Alors, lorsqu'on a 18 ans, est-ce qu'on rêve de jouer au plus haut niveau, d'être appelé en équipe de France?
Forcément, ce serait une chance. Ce serait une grande opportunité. Mais il faut beaucoup plus d'entraînement, il faut beaucoup plus de progression pour l'instant. Mais forcément, oui.
Vous avez été plus jeune encore, vous avez été repéré parmi les 50 meilleures Françaises de votre âge.
Oui, lors des sélections, oui.
Et sur quoi vous devez progresser?
Je pense que ce serait plutôt niveau attaque, être plus explosive.
Dernière question, j'imagine que vous voyez les matchs de la grande équipe masculine du Stade Rochelet, où évoluent d'ailleurs plusieurs de ces Vriens. Quel est votre joueur préféré et pourquoi?
Je pense que ce serait Botia. C'est du coup centre et troisième ligne, elle. Parce que du coup lui il est très explosif, il est agressif dans le jeu et il gratte énormément de ballons. Moi j'adore son jeu.
Est-ce que vous allez les voir un petit peu? Est-ce que vous êtes au contact de ces joueurs-là?
Oui, on les voit souvent dans la structure. En plus il y a certains joueurs qui entraînent des équipes. Et puis quand on a nos places pour les matchs grâce au stade, on les voit aussi.
On vous souhaite quoi, Lola, pour l'année 2026?
De la réussite. La réussite rugbyistique.
D'accord. Merci beaucoup, Lola. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'année. Puis, on vous félicite pour votre parcours et que l'on tenait à mettre en lumière ce matin sur la radio Colline.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Bon dimanche, Lola. Au revoir.
Bon dimanche, au revoir.
Merci Lola Martin et bonne fête de fin d'année à vous Lola, donc qui évolue au stade Rochelet. Le rugby, toujours la nationale ce samedi. Les Niortais ont fait match nul à Marcq-en-Barœul, 29 partout. Les Niortais ont des regrets, ils menaient 29-10 à la 65e minute avant de subir 10 terribles dernières minutes en encaissant 3 essais, 70e, 78e et 80e minute, et 2 cartons jaunes également. Damien Neveu, l'entraîneur Niortais, confié dans les colonnes du Courrier de l'Ouest: je ne veux pas polémiquer, mais j'ai du mal à comprendre les décisions arbitrales. sur la deuxième mi-temps. Et c'était le 100e match sous le maillot niortais du capitaine César Baudin. Au classement, Niort est 8e avec 33 points, avec 13 points d'avance sur le premier relégable, qui est d'ailleurs le club de Marc Ambarol. En régional 1, ça joue cet après-midi pour Choret qui accueille Lège Cap Ferré. Régional 2, le COP 79 se déplace à Oléron. En régional 2, Pays de la Loire, les Toircais vont jouer à Pornic. En régional 3, Saint-Mexan accueille l'équipe de Chauvigny. Allez, Dominique, pour terminer cette émission, nous avons une dernière invitée.
Une invitée de choix, Marie Mamère, bonjour.
Bonjour.
Marie, c'est un honneur pour la radio Colline que de vous recevoir. On précise qu'après une maîtrise d'histoire moderne, vous êtes devenue journaliste comme vos parents. Votre regretté père Jean est décédé en 1995 et votre oncle est Noël Mamère. Vous êtes responsable d'édition au service des sports de France Télévisions, présentatrice de Tout le sport et de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous parlez quatre langues et on vous voit également pour les interviews du bord du cours du tournoi de Roland-Garros. Le journalisme et le sport, c'est toute votre vie. Pourquoi ces deux passions ?
Alors, c'est pas vraiment des passions. Je suis un peu comme Obélix, en fait. Pour ce qu'est le journalisme, je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué mon père, ma mère qui était journaliste en presse quotidienne régionale aussi. Donc, on a toujours bercé là-dedans. Mon oncle, ma tante aussi, la petite sœur de mon père et de mon oncle, qui bossait à la radio, qui une radio, elle travaillait à France Bleu Gironde, Radio France Bordeaux Gironde, et on a toujours été, on regardait la télé, on a toujours été branchés à suivre les infos tout le temps quand on était enfant. Mes deux frères et moi, j'ai un grand frère et un petit frère. Et puis après le sport, ayant deux frères, le soir à la télé, quand il fallait choisir entre le match de foot et le film de filles, comment vous dire que à deux contre un, j'ai pas beaucoup gagné, donc j'ai beaucoup regardé de matchs de foot. Et puis j'avais quand même toujours un peu suivi le sport avec papa quand on était enfant, donc c'était un peu quelque chose qui restait ludique, qui restait sympathique et qui faisait partie de ces côtés du métier de journaliste qu'on pouvait courir avec passion. Et c'est ce que j'aimais. Et quand il a fallu choisir un travail, c'était soit faire prof, et là je l'ai pas senti. C'était des études d'histoire, hein, vous l'avez rappelé, et moi vraiment c'était ma passion, l'histoire et la Révolution française, mais prof, je pense que je le sentais vraiment pas. Et j'avais quoi d'autre ? Et j'avais le journalisme, donc j'ai essayé. Et le sport, c'était vraiment ce qui me branchait le plus avec les faits divers et la police-justice. Et bon, bah, je suis tombée dans le sport. Et c'est vrai que c'est un choix après d'être restée, parce que le sport, je pense, et j'en suis presque certaine maintenant, que c'est le seul endroit, le dernier endroit où on peut s'amuser avec l'écriture, où on peut faire de l'humour, où il y a beaucoup de sourires. Et je pense qu'on en a besoin dans la vie, plutôt que de parler des infos terribles qu'on vend en ouverture des journaux.
Alors justement, lorsque l'on passe à l'écran devant des millions de téléspectateurs, est-ce qu'on a le trac ?
Alors moi, pas du tout. Même pour tout vous dire, la semaine dernière, j'avais un fou rire pendant le générique. La réalisatrice m'a fait une blague dans l'oreillette et j'étais à deux doigts de pouffer de rire en disant bonsoir. Moi, ça m'a jamais stressé. En fait, parce qu'il y a personne, hein. Il y a juste une caméra avec un point rouge. Donc moi, je vois pas du tout ça comme quelque chose de stressant.
Alors, vous interviewez les tennismen et tenniswomen au bord des cours de Roland-Garros. Est-ce pour vous un exercice difficile d'aborder tout de suite un athlète, un tennisman ou une tenniswoman lorsqu'elle a terminé à peine son match ?
Alors, c'est très, très difficile déjà parce que moi, je suis timide, maladive. Donc, aller vers les gens, c'est quelque chose de très difficile. De par mon métier, je suis obligée de le faire et c'est pas plus mal parce que ça m'oblige un peu à sortir de cette zone de confort. Et après, le contexte de Roland-Garros, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'ils viennent de finir leur match, ils sont fatigués. Et ça a un petit peu changé ces dernières années, mais autant les premières années, quand je le faisais, on était les premiers sur le court à pouvoir les interviewer, autant maintenant, on passe souvent après l'interview sur le court. Donc les pauvres, ils ont déjà eu 5 minutes d'interview avec la fédération, avec quelqu'un de la fédération, c'est Fabrice Santoro, c'est Marion Bartoli qui fait ça, qui font ça sur le court avec le micro pour que tout le court, les spectateurs du court puissent l'entendre. Donc le pauvre ou la pauvre, ils sont fatigués d'avoir fait le match, ils ont déjà répondu à une salve de questions et après on vient encore leur reposer des questions qui sont un peu souvent les mêmes. Donc de temps en temps on se fait piéger, on dit mince, il vient de poser ma question, il faut que je trouve un truc un peu plus inventif pour pas que le pauvre soit obligé de répéter.
Alors vous parlez quatre langues, est-ce que c'est un avantage de parler italien lorsqu'il s'agit d'interroger l'italien Yannick Sinner ?
Ah ouais, bah ça oui, j'avais quand même un petit peu les pépettes de me tromper, et surtout qu'ils ne comprennent pas ce que je lui dise. Donc j'avais noté, j'avais un petit papier avec noté toutes mes questions. J'ai fait valider par notre traducteur, qui est celui qui traduit en direct pour l'antenne, pour France 2, que c'est pas moi qui traduis en fait les réponses. Et donc j'étais plutôt pas mal, j'avais deux questions, j'étais plutôt pas mal. Et là, j'ai mon chef, qui aurait voulu à 30 secondes de commencer l'interview, qui me dit, écoute, tu veux pas lui demander à Yannick comment s'est passé ton entraînement ce matin avec... Il s'était entraîné avec Louis Boisson.
Oui.
Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais concentrée déjà pour ne pas me tromper à essayer de bien prononcer mes deux premières questions. Et il a fallu que j'aille chercher dans mon catalogue d'italien comment est-ce qu'on disait entraînement, comment est-ce qu'on disait comment ça se passe et tout. Et finalement, ça a été ma troisième question. Heureusement, j'ai réussi à la poser. Mais en fait, il me répondait, le pauvre. J'écoutais pas trop ce qu'il me disait dans ses premières réponses parce que j'étais en train de me dire mince, il faut pas que je me trompe sur ma dernière question, C'est un exercice un peu particulier, mais c'est très rigolo à faire.
Parmi ces grands joueurs et grandes joueuses, beaucoup sont passés par Bressuire, où il y a un club de tennis de grande qualité, des installations remarquables, une équipe qui était cette année en championnat de France Pro A. Le tennis bressurais organise le tournoi futur ATP, surtout le top 10-12, réservé aux 10-12 ans, et y ont joué notamment Amélie Mauresmo, Hénin, Alep, Azarenka, et j'en passe, et des meilleurs, Safin, Tim, Tsonga, Gasquet, Simon. Est-ce que vous le saviez, vous, ça?
Alors non, je ne le savais pas, et c'est vrai que quand on parle des tournois juniors, il y a surtout les petits as, qui est pour les joueurs qui sont un petit peu plus grands, on parle beaucoup de ça. Mais je sais, pour avoir parlé beaucoup avec Justine Hénin, qui est notre consultante à Roland-Garros, qu'elle a beaucoup, elle a un club de tennis, elle entraîne plein de jeunes, et elle a beaucoup de souvenirs de sa carrière de jeune joueuse, et on en parle souvent, on dirait. Et je pense que eux, tous les joueurs qui sont passés chez vous, et je sais s'il y a des champions et des vainqueurs de Grand Chelem, je pense qu'ils sont très reconnaissants d'avoir eu l'occasion de jouer dans des conditions, dans de telles conditions, dans d'aussi bonnes conditions quand ils étaient jeunes, qu'on les ait aussi bien considérés, et faire des bons tournois quand on est jeune, et surtout quand on gagne, je pense que ça conditionne toute la carrière professionnelle après, et ça aide à gagner.
Justine Hénin, vous lui reparlerez de Bressuire ?
Ah ben, je lui parlerai de Bressuire l'année prochaine à Roland-Garros. Dès que je la recroise, je lui parlerai de Bressuire, bien sûr.
Marie, vous nous avez dit, avec plaisir, écoutez notre émission Sport Matin Dimanche sur la radio Colline. Un avis sur cette émission qui a été souhaitée par notre directrice Jacqueline Pinon et le président Vincent Nori, tous les deux des grands amateurs de sport.
Moi, je trouve ça super. J'aime beaucoup le concept. Je trouve qu'on s'intéresse à vous brasser plein de sports différents, plein d'actu, un peu comme notre émission Tout le sport. C'est un moyen de s'intéresser, ce qu'on n'a pas forcément nous le temps de faire en télé, de s'intéresser au sport local. Et moi, j'écoutais beaucoup 8FM quand je vais en vacances près de Bordeaux. C'est la seule radio que je capte à Soulac-sur-Mer. J'écoute les radios locales beaucoup quand je suis en vacances, et je trouve ça super, les émissions de sport local. Donc bravo et continuez, parce que c'est un plaisir à écouter.
Marie, dernière question. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter personnellement et professionnellement pour 2026?
Alors que ça continue, qu'on continue de pouvoir couvrir autant d'événements qu'on fait avec les sports. On sait que les restrictions budgétaires vont arriver, vont sans doute un peu impacter la façon dont on travaille. Mais bon, je pense que tout le monde sait qu'on est un petit peu déjà des privilégiés à pouvoir voyager autant et couvrir autant de belles manifestations sportives. Donc continuer comme ça, continuer sa route, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup Marie, et à vous retrouver très vite sur Tout le sport, l'émission que vous co-présentez. Vous, c'est le vendredi, le samedi soir.
Voilà, et il y a Tout le sport qui sera bientôt au stade de la Quotidienne à partir du 5 janvier.
Et on vous retrouvera.
Bah oui, j'espère.
D'accord.
On touche du bois.
Merci beaucoup Marie.
Merci Dominique, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup Marie-Mamère d'avoir été invitée donc de ce Sport Matin Dimanche, présentatrice de Tout le sport sur France Télé, présentatrice, pas facile à dire. On a quelques infos pour terminer Dominique, ce Sport Matin Dimanche.
Oui, des belles informations en football, à signaler que Fiona Liègre, l'Air Vaudaise, a joué la 5e rencontre de la Ligue des Champions avec le Paris FC, vainqueur 1-0 de Vålerenga. Fiona est entrée en jeu à la 63e minute. Mercredi, le PFC affronte Barcelone au stade Jean Bouin. En judo, bravo à la Niortaise Pauline Cuc, qui est devenue hier à Saint-Étienne championne de France en moins de 52 kilos à l'issue d'une finale qui a duré près de 13 minutes. Et enfin, en cross-country, on sera de tout cœur cet après-midi avec le bressuré du SBAC Hugo Hay, qui dispute les championnats d'Europe avec l'équipe de France. La course élite de 7470 mètres se déroulera au Portugal à Lagoa. Ce sera la 20e sélection d'Hugo que l'on espère retrouver ce soir en direct sur Colline pour confier ses impressions.